du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique pour le dimanche de la Sainte Famille. Lorsque les 8 jours sont accomplis pour sa circoncision, on lui donne son nom Jésus, comme il a été appelé par le messager divin avant sa conception. Lorsque les jours de leur purification sont accomplis selon la Torah de Moïse, ils montent à Jérusalem pour présenter l'enfant au Seigneur. Comme il est écrit dans la Torah du Seigneur, tout premier-né de sexe masculin sera appelé consacré au Seigneur. Ils vont pour donner en offrande sacrée un couple de tourterelles ou 2 poussins de colombes, selon ce qui est dit dans la Torah du Seigneur. Voici qu'à Jérusalem, il y a un homme du nom de Siméon. Cet homme juste et fervent attend la consolation d'Israël et l'Esprit sacré est sur lui. Il a été averti par l'Esprit sacré qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il est inspiré de venir au temple lorsque les parents y font entrer l'enfant Jésus pour faire, à son sujet, selon la coutume de la Torah. Il le prend dans le creux de ses bras et il bénit Dieu.
Maintenant, Maître, selon la parole que tu as prononcée, tu laisses aller ton serviteur en paix. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour une révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël.
Son père et sa mère sont étonnés de ce qui est dit à son sujet. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère,
« Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe de contradiction. Toi, ta vie sera transpercée par un glaive, de sorte que les pensées de bien des cœurs soient révélées. »
Il y a aussi Anne, une prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle est avancée en âge, après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle a vécu en veuve jusqu'à 84 ans. Elle ne s'éloigne pas du temple, servant Dieu nuit et jour dans les jeûnes et les prières. À cette heure même, elle se trouve là et elle fait la louange de Dieu et elle parle à son sujet à tous ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem. Quand ils ont tout accompli selon la Torah du Seigneur, ils reviennent en Galilée, dans leur ville Nazareth. Le petit enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Jésus Sauveur. Il faut accepter Jésus comme notre Sauveur personnel selon la formule de certains chrétiens. Que mettons-nous sous ces mots comme réalité concrète? Envisageons-nous ce salut comme l'au-delà de la mort ou bien est-ce une réalité de notre vie actuelle?
Eh bien voilà quelques questions que pose ce texte. Regardons d'abord où il se trouve. Eh bien, il est dans le 2e chapitre du récit évangélique de Luc. Et ce chapitre décrit les grandes étapes de l'enfance de Jésus. D'abord, sa naissance, qui est annoncée au berger, puis sa circoncision au 8e jour, ensuite, sa présentation au temple le 40e jour, et enfin, son pèlerinage au temple de Jérusalem alors qu'il a 12 ans. C'est un peu comme si, de nos jours, on faisait le récit de l'enfance de quelqu'un en racontant sa naissance, bien sûr, mais son baptême, sa première communion et sa confirmation, c'est-à-dire en voulant mettre en lumière la relation de cette personne avec Dieu. Il ne faut jamais oublier que les récits évangéliques sont des catéchèses et Ces catéchèses contiennent donc un enseignement sur Dieu et sur son projet envers l'humanité. Alors, il nous faudra découvrir le message que Luc a voulu mettre en lumière. Alors, regardons notre texte.
Le récit de Samuel.
Les rédacteurs de l'Évangile utilisent souvent des textes bibliques comme schéma pour rédiger leur propre récit. Et le texte ancien qui est utilisé par Luc ici est celui de Samuel. Alors, qui est Samuel ? Eh bien, c'est un prophète des environs de l'an 1000, et qui vit à l'époque où le peuple d'Israël n'a pas d'autre roi que Dieu. Mais bien sûr, Israël veut ressembler aux autres peuples, ces peuples qui ont un roi, une armée, et puisqu'ils ont une armée, ils peuvent agrandir leur territoire aux dépens des autres peuples. Alors Samuel finira par céder aux demandes pressantes d'une partie du peuple, et il consacrera un roi. Ce sera d'abord Saül, puis David. Et ce Samuel, dans les récits bibliques, est décrit comme un instrument de Dieu. En effet, il est né d'Anne, Anne qui était une femme stérile et qui avait fait à Dieu cette prière.
« Seigneur Tout-Puissant, si tu daignes regarder la misère de ta servante et donner à tes servantes un garçon, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. »
Oui, alors, Anne, à la suite de cette prière, va devenir enceinte, et lorsqu'elle aura sevré son fils Samuel, elle montera au sanctuaire du Seigneur, qui était alors à Silo, pour y présenter son fils.
« Le Seigneur m'a concédé ce que je lui demandais. À mon tour, je le cède au Seigneur pour toute sa vie. »
Et Anne se mettra à prier avec ces paroles.
« J'ai le cœur joyeux grâce au Seigneur. » Il relève le faible de sa poussière et le pauvre de son tas d'ordures pour les faire asseoir avec les princes. Même la femme stérile enfante cette fois.
On voit bien que cette prière inspirera le Magnificat de Marie. Or, à l'époque où se situe notre récit, certains auteurs avaient fait de Samuel une figure du Messie. Donc, en utilisant ces textes pour décrire la naissance de Jésus, le rédacteur, Luc, suggère à ses lecteurs que Jésus est bien le Messie attendu.
Le rite de la présentation de l'enfant.
Oui, il semble bien que ici deux rites semblent mêlés et un peu confondu par Luc. Le rite de la présentation de l'enfant et celui de la purification de la mère. Le premier rite, la présentation de l'enfant au Seigneur, est un rite très ancien et on en trouve déjà l'explication dans le livre de l'Exode au chapitre 13.
Ainsi parle le Seigneur à Moïse. Consacre-moi le premier enfant mâle de chaque femme. Il est à moi comme tout premier-né d'un animal.
C'est donc une coutume certainement très ancienne, qui existe d'ailleurs chez d'autres peuples. Son sens, eh bien, c'est probablement de reconnaître que toute existence est un don de Dieu. Et pour rendre grâce à Dieu pour l'existence, on lui offre, on lui consacre, les premiers fruits de la vie, aussi bien le premier-né de l'animal, que les premières récoltes de grains et de fruits, que le premier-né de la femme. Pour l'animal, eh bien, on l'immole pour le donner à Dieu, ou bien on le rachète par l'immolation d'un autre animal.
Tu rachèteras par un mouton le premier-né d'une ânesse.
Voilà ce que dit le livre de l'Exode. Et pour le premier-né de la femme, eh bien, rappelons-nous le sacrifice d'Isaac par Abraham, son père. C'est Dieu qui va faire comprendre à Abraham qu'il ne veut pas de sacrifice humain, et Abraham sacrifiera un agneau à la place de son fils. Alors par la suite, eh bien, on s'est mis à offrir à Dieu le premier-né, non plus en l'immolant, mais en le consacrant au service du Seigneur. Faisons une parenthèse, mais il n'y a pas si longtemps, en pays de chrétienté, l'aîné d'une famille était souvent destiné à la prêtrise. Revenons à Anne. Anne amène donc son fils premier-né, Samuel, au sanctuaire pour qu'il soit consacré au service du Seigneur. Après, on élargira cela et il y aura une tribu tout entière, la tribu de Lévi, qui sera consacré au service du temple. Tous les fils de cette tribu seront des lévites du temple, des sortes de sacristains, de chantres, de policiers. Ils faisaient un peu toutes les besognes comme un bas clergé. Les fils des autres tribus, eh bien eux, ils seront exemptés de ce service au temple en versant 5 cycles d'argent au sanctuaire. Alors comme Jésus n'appartient pas à la tribu de Lévi, Marie et Joseph vont se conformer à ce précepte de la Torah. La cérémonie doit avoir lieu après le premier mois, et cela en présence d'un prêtre et de témoins. Et de nos jours encore, ce rite est en araméen, comme au temps de Jésus. Le père présente l'enfant au prêtre sur un plateau, et le prêtre, le Cohen, demande si le père veut lui laisser l'enfant donc au service du temple, ou bien le racheter. Et après avoir entendu la réponse négative, le prêtre redira 3 fois « Ton fils est racheté ».
Le deuxième rite est celui de la purification de la mère,
oui.
Marie.
Alors, 40 jours après la naissance d'un garçon, et 80 après celle d'une fille, la mère devait offrir un sacrifice à Dieu pour se purifier du sang versé. On trouve ce précepte dans le livre du Lévitique.
Si une femme est enceinte et enfante un garçon, elle sera impure pendant 7 jours comme au temps de la souillure de ses règles. Au 8e jour, on circoncira le prépuce de l'enfant. Et pendant 33 jours encore, elle restera à purifier son sang. Elle ne touchera à rien de consacré et n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que soit achevé le temps de sa purification.
On a peut-être un peu de difficulté à comprendre cette impureté. Alors, il faut savoir que ce n'est pas forcément en lien avec le péché, mais qu'il s'agit d'une sorte d'incapacité à s'approcher de Dieu, à s'approcher du sacré, avant d'être rétabli dans la pureté. Il faut se souvenir que dans la pensée juive, le sang est le grand signe de la vie, et donc perdre son sang est considéré comme une perte de son intégrité physique. On n'est plus pleinement soi-même. Et puisqu'on n'est plus pleinement soi-même, on n'est plus en pleine communion avec Dieu qui est la source de la vie. La mère devra donc offrir à Dieu un agneau et un pigeon ou une tourterelle pour rétablir cette communion. Mais si elle est pauvre, elle peut alors offrir 2 pigeons ou 2 tourterelles, et c'est donc le cas des parents de Jésus.
Mes yeux ont vu ton salut.
Au lieu de nous parler de prêtres et de lévites, au lieu de nous détailler le sacrifice offert, Luc nous présente plutôt les interventions de 2 témoins, Anne et Siméon, 2 vieillards qui vont louer Dieu pour cet enfant Jésus en qui ils vont voir le Messie promis. De la même façon que ce sont des messagers divins qui ont révélé aux bergers la destinée de l'enfant de la crèche dans la nuit de Noël, eh bien de même c'est l'Esprit divin qui fait reconnaître à Anne et à Siméon le Messie en l'enfant de Marie. L'un comme l'autre, Anne et Siméon, étaient en attente de ce Messie, un Messie qui viendrait sauver le peuple juif, lui apporter soutien et libération. Siméon, qui est un homme juste et fervent, attend, comme l'on dit, la consolation d'Israël. La consolation ou le réconfort, eh bien c'est la réponse de Dieu au cri de ceux qui appellent vers lui. Et c'est là d'ailleurs traditionnellement une des fonctions du Messie, comme on le lit dans le livre d'Isaïe.
Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa faute est pardonnée. Celui sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre et l'humilié. C'est moi, je suis celui qui vous console. Qui es-tu pour craindre l'humain qui est mortel? Tu oublies le Seigneur, ton Créateur.
Dans cet enfant qu'il porte dans ses bras, Siméon reconnaît celui qui apporte le salut. Ce mot « salut » est d'ailleurs inscrit dans le nom même de Jésus. En effet, en araméen, « Yeshua », qui est devenu « Jésus » en langue grecque, veut dire « le Seigneur sauve ». Et pour le monde d'alors, le nom exprime la mission, le rôle de la personne. Le Messie va effectivement sauver Israël. Alors pour beaucoup, Ce salut est d'abord le recouvrement de la liberté, le Messie va chasser les Romains. Mais pour d'autres courants juifs, le salut est situé sur un plan moral et spirituel. Le Messie va remettre la Torah en honneur. Il va guider le peuple pour qu'il vive dans la fidélité à cette Torah qui est la règle de vie donnée par Dieu. Et d'autre part, ce Messie ne sera pas seulement un sauveur pour Israël, mais il aura aussi une mission pour les autres peuples.
Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour une révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël.
Déjà, le prophète Ésaïe avait parlé en ces termes de la vocation d'Israël et de son Messie. Écoutons quelques passages d'Ésaïe.
C'est trop peu que tu sois un serviteur pour relever les tribus de Jacob et d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut arrive aux extrémités de la terre. J'ai fait de toi l'alliance du peuple et la lumière des nations.
On a un peu de peine à bien saisir le caractère étonnant de cette mission. En effet, comment le Messie de ce peuple qui est alors humilié, conquis, colonisé, pourra-t-il être lumière pour tous les peuples? Comment pourra-t-il faire cette réconciliation entre Israël et les Romains? Il n'est en effet pas évident de parler de réconciliation à un peuple qui est occupé, qui est colonisé, qui est humilié depuis une centaine d'années. Les bergers, eux, avaient surtout parlé de la naissance du Messie comme d'une grande joie pour Israël. Et bien maintenant, Siméon annonce que Jésus est aussi un sauveur pour les peuples païens. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'il fallait déjà comprendre dans le chant des messagers divins, gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes que Dieu aime. Ces gens, ces humains que Dieu aime, ne sont pas uniquement les fils et les filles de son peuple Israël, ce sont tous les humains qui s'ouvrent à son amour. Il est d'ailleurs aussi intéressant de voir le couple de mots qui est employé ici. Gloire et lumière. Dans le texte d'Isaïe, nous avions alliance et lumière. Eh bien, la gloire, c'est la manifestation visible de ce Dieu invisible. C'est le rayonnement de son amour. C'est la force spirituelle qui fait l'unité. L'unité de tous au sein d'un peuple qui est réuni dans la communion avec le Dieu qui est Père. La gloire de Dieu se manifeste donc dans son alliance avec son peuple. Dans l'alliance, Dieu se révèle amour. Ce n'est que dans la mesure où ses fils vont être vraiment un, que Dieu sera donc reconnu par ceux qui ne le connaissent pas encore comme un Dieu Père, un Dieu amour. Et la division de ses fils ternit la gloire de Dieu. On a déjà ici l'écho de la prière de Jésus au soir de sa vie.
Père, que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé.
Oh, comme c'est une prière actuelle, dans un monde où les chrétiens sont encore divisés. Pensons aux vieilles querelles entre les orthodoxes, les protestants, les catholiques, mais aussi aux récents conflits en ex-Yougoslavie et à celui de l'Irlande qui a duré 25 ans. Comment le monde qui ignore l'Évangile peut-il le reconnaître dans les divisions de ceux qui s'en proclament les adeptes? Comment les disciples de Jésus peuvent-ils être source d'unité dans le monde si ces mêmes disciples ne vivent pas cette unité entre eux? La paix que le Messie vient apporter est livrée entre les mains de ceux qui se disent les fils et les filles du Père divin.
Ils sont sur le chemin du bonheur, les artisans de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Cet enfant sera un signe de contradiction.
Oui, que signifie cet avertissement de la destinée plutôt tragique de ce Messie? Luc donne déjà, ici, un flash de la destinée qui sera celle de Jésus à la fin de sa vie. Après la louange de Siméon qui reconnaît le Messie dans ce petit enfant, on a la prédiction qu'il sera rejeté. Plus tard, ce rejet sera illustré par Jésus lui-même dans la parabole de l'héritier de la vigne qui est jeté hors de la vigne et tué par les vignerons. Et de même, dans la première prédication que Jésus fera à la synagogue de Nazareth, Luc dira d'abord l'admiration des auditeurs et ensuite le rejet de Jésus qu'on va pousser hors de la ville pour le tuer. Celui qui a mission d'apporter la paix, le Messie, sera, contre son gré, un facteur de division.
Dans une même maison, on sera divisé. Père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère.
Pourtant, celui qui est ainsi rejeté pourra devenir le salut de ceux qui vont marcher à sa suite. C'est ce qu'exprimait déjà le psaume 118, la pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre de fait.
Comment comprendre cela? Pourquoi Jésus verrait-il son message refusé? Comment expliquer que celui qui apporte la paix provoque des divisions?
On est habitué en effet à voir autrement le rôle des artisans de paix. Eh bien, Jésus sera pourtant rejeté par un grand nombre de ses compatriotes. Pour quelle raison? Si l'on en croit l'épisode de la synagogue de Nazareth au chapitre 4 de Luc, c'est le message sur le Dieu de la grâce qui déchaîne l'agressivité des compatriotes de Jésus. Pour décrire l'intervention de Dieu dans notre monde, Jésus rappelle que Dieu prodigue sa bonté à tout être humain, quelle que soit sa race et sa vertu. La faveur de Dieu ne se limite pas à ceux qui se proclament son peuple. Ainsi, au temps de la famine, le prophète Élie a donné de l'huile et de la farine à une veuve qui est païenne. Et le prophète Élisée, lui, va guérir la lèpre d'un païen. Alors, pour les compatriotes de Jésus, n'est-ce pas la justice même de Dieu que Jésus remet en question? Si Dieu était juste, il aurait d'abord guéri les lépreux juifs et nourri les veuves d'Israël, puisqu'ils sont ses fidèles, les fidèles de son peuple. À quoi cela sert-il d'être fidèle à la règle de vie de Dieu, si ceux qui ne servent pas Dieu sont l'objet de ses faveurs, et même parfois l'objet de ses faveurs avant ceux qui vivent de la Torah? Cela rappelle la réaction des ouvriers de la parabole qui sont envoyés travailler à la vigne et qui se montrent fâchés de ce que le maître paye autant ceux qu'il a embauchés pour une heure que ceux qui ont travaillé tout le jour.
Pourquoi votre œil est-il mauvais? Parce que je suis bon.
De même, le Dieu de Jésus n'est pas celui qui punit le méchant, mais celui qui veut le sauver et qui n'a pas d'autre moyen pour le sauver que l'amour. S'il y a sur cette terre des souffrances physiques et morales, elles sont le plus souvent les conséquences des choix qui ont été faits et non pas la punition de Dieu. Jésus affirmera cela avec force.
Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants et tomber la pluie sur les justes et les injustes.
Et ceux qui veulent être les fils de ce Dieu qui est Père doivent aimer leurs ennemis et faire du bien à ceux qui les persécutent.
Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Aussi, montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Eh bien, une telle invitation est inacceptable pour ceux qui ne jurent que par la justice. Ainsi, l'attitude du Père envers son Fils prodigue soulève l'indignation de ceux qui pensent que ce Père devrait d'abord sermonner et faire payer à son Fils ses ingratitudes avant de lui pardonner. Mais ceux qui pensent ainsi ne sont-ils pas encore nombreux? Et n'en sommes-nous pas aussi, tous, instinctivement? La bonté ne nous est-elle pas intolérable lorsqu'elle va jusqu'à sembler privilégier ceux qui nous paraissent des ingrats? N'avons-nous pas du mal à accepter que le pasteur semble délaisser les 99 brebis fidèles pour aller à la recherche de la brebis perdue? Une attitude qui peut paraître aux yeux des gardiens de l'ordre comme une attitude irresponsable. Interrogeons-nous. Quelle est notre réaction, par exemple, devant les jeunes atteints du sida à cause d'une trop grande liberté sexuelle? Notre attitude, notre réaction devant le fumeur atteint d'un cancer du poumon, est-ce que nous sommes moralisateurs? Sommes-nous vraiment compatissants? Mais cette révolte devant la bonté qui nous semble injuste, parce que trop bonne envers des gens qu'ils ne méritent pas, n'est-elle pas ce qui est motif de scandale, c'est-à-dire occasion de chute? En effet, celui qui s'offense devant la bonté toute gratuite ferme sans doute son cœur à cette même bonté. Il y a des revendications de justice qui conduisent à l'agressivité, voire à la haine, et qui finissent par détruire ceux qui se laissent aller à ces sentiments. Alors que être sauvé, c'est accueillir la bonté de Dieu pour tenter d'en vivre à son tour. Donnons un exemple récent Nelson Mandela et ses compagnons de lutte en Afrique du Sud, qui ont passé plus de 20 ans en prison parce qu'ils s'étaient élevés contre l'injustice criante qu'était l'apartheid, eh bien, ces hommes qui sont maintenant au pouvoir prêchent le pardon et la réconciliation. Pardonner est une force politique, disent-ils, car être vraiment libre, c'est lutter pour libérer autant l'oppresseur que l'opprimé. Et citons quelques réflexions d'un évêque de France, Jacques Delaporte, lors d'un rassemblement œcuménique qui avait pour thème « Réconciliation, source de vie nouvelle ».
La réconciliation est une vertu éminemment politique, dont nos sociétés actuelles ont le plus grand besoin. Aujourd'hui, les conflits sont des conflits d'identité, des chocs de culture ou de civilisation. Les peuples qui n'arrivent pas à surmonter leur crise d'identité adoptent des comportements d'exclusion. L'épuration ethnique ou religieuse est en marche. Pierre Clavery, évêque d'Oran, a signé par sa mort une vie donnée pour la réconciliation, comme le Christ qui, pour réconcilier les peuples séparés, a porté en sa chair la haine.
Pensons aussi à ces moines cisterciens d'Algérie qui ont payé aussi de leur vie. N'est-ce pas ce refus d'un Dieu de réconciliation qui a fait rejeter Jésus? La peur de l'autre, l'autre qui est différent, engendre en nous un mouvement de rejet de cet autre, rejet qui peut aller jusqu'à ce que nous soyons poussés à lui donner la mort. À la suite de Jésus, la mission du chrétien n'est pas seulement de tolérer l'autre, de le supporter, mais de le comprendre dans ce qui fait le sens profond de sa vie, et cela jusqu'à pouvoir l'aimer pour le faire vivre. C'est ce que rapporte l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe.
Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation.
Ce ministère en est un qui peut conduire au même don de soi que le Christ. « Toi, ta vie sera transportée par un glaive », dit Siméon à Marie. Et Marie représente ici tous ceux qui mettront leur pas dans celui de son Fils, tous ceux qui seront envoyés par le Père pour témoigner de son amour.
« Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous serez livrés même par vos pères et mères. Vous serez haïs de tous à cause de moi. »
Mais celui et celle qui tiendra dans la fidélité à l'amour, celui-là, celle-là sera sauvé. Il aura gardé son cœur et son âme en vie parce qu'il les aura gardés dans l'amour.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnons l'adresse du site. Vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, 6 mois. Téléphonez, nous vous donnerons les tarifs des abonnements aux feuillets ou aux cassettes.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.